Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Histoire au quotidien sur la Gallo-Romanité. Nous continuons notre voyage, si je puis dire, sur les voies romaines qui sont des éléments structurants et qui sont des acteurs, on va dire en tout cas des outils prépondérants dans la romanisation du territoire gaulois. Tout d'abord, commençons par les vitesses de déplacement. Elles sont évidemment difficiles à calculer et faire une moyenne est peine perdue. Sur une voie romaine ou sur son bas-côté, on pouvait trouver un voyageur à pied, un cavalier, un promeneur sur son âne ou sa mule, un notable sur un véhicule léger, comme également une litière, des chariots, des troupeaux de bovins ou d'oies. Enfin, il y avait aussi les voyageurs officiels, l'armée en déplacement bien sûr, mais surtout les fonctionnaires de l'Empire et de la poste impériale. Ces derniers permettaient une communication entre le pouvoir central et les provinces de l'Empire. Ces fameux cavaliers du cursus impérial pouvaient parcourir jusqu'à 75 km en une journée. Ce service fut mis en place par Auguste, justement pour mieux gérer la romanisation dans les provinces et y compris bien sûr dans les Trois Gaules. Parfois, pour des raisons ponctuelles, un individu était autorisé à bénéficier du service impérial. La personne devait alors être munie d'une autorisation officielle, il recevait une sorte de sauf-conduit avec un sceau qui authentifiait son autorisation. Tout un réseau de relais et de stations disposés le long de la voie romaine était mis gratuitement à sa disposition. Le voyageur ainsi désigné pouvait changer de monture, se restaurer, mais également dormir. Dans les stations, qui étaient ce qu'on pourrait dire l'équivalent des stations-service, on pouvait changer de cheval, on pouvait aussi soigner son cheval, on pouvait aussi le nourrir. Ces mutations, ces mutationnes, sont connues. On en connaît quelques-unes, comme par exemple le village de Muison, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de la ville de Reims, ancienne Durocortorum, capitale de la Gaule belge. Ou bien encore, près de chez nous, Castelnau-l'Olez, près de Montpellier. Ces mutationnes étaient disposées plus fréquemment sur la voie romaine tous les, on va dire, tous les 10, 15, 20 kilomètres. Le voyageur pouvait, par contre, passer la nuit dans des mansiones, dans des auberges, qui, elles, étaient plus espacées, tous les 30 à 50 kilomètres. Dans notre région, Aspirant dans l'Hérault et Viltel près d'Ambroussoum sont connus pour être d'anciens relais de poste impérial. Dans ces relais et stations, le voyageur pouvait compter sur l'aide de vétérinaires, de palefreniers, d'aubergistes. Et pour gérer un tel service en Gaule, le cursus publicus était confié justement à un préfet des véhicules lui-même basé à Lugdunum. On le voit, une voie romaine, c'est tout un organisme vivant qui structure un paysage et qui donc participe à la romanisation du territoire qu'elle traverse, ne serait-ce que par l'usage du latin sur les bornes millières. Mais pas seulement. Voyager pouvait s'avérer dangereux. Les accidents étaient fréquents, sans oublier les attaques de brigands. Cela explique la présence de nombreux sanctuaires routiers qui, outre le fait de rassurer les voyageurs superstitieux, véhiculaient les valeurs et la civilisation romaine. Sur la route, il était fréquent de passer près d'un sanctuaire dédié à Mercure. Ce dieu était connu pour être le protecteur des voyageurs, des commerçants, mais aussi des voleurs. On trouvait également des sanctuaires de divinités importantes ou locales près de lieux sensibles, comme par exemple le franchissement d'un gué ou d'un fleuve, ou aussi avant d'entrer dans une forêt ou à la sortie d'une forêt, ce qui en dit long sur les possibles traquenards qui pouvaient attendre le voyageur en forêt. Quand un voyageur passait près d'un de ces petits sanctuaires, il pouvait soit disposer un ex-voto, soit jeter une pièce de monnaie dans le cours d'eau. Cette religiosité des routes est soulignée une fois de plus par un poète, écrivain, Apulé. Il dit, dans un de ses ouvrages, que les voyageurs pieux ont coutume, s'ils passent près d'un bois sacré ou d'un sanctuaire, de faire un vœu, de faire une offrande, d'un fruit, ou de s'asseoir un moment. On le voit, la religiosité était présente sur les voies romaines, et elle structurait également l'emplacement des morts. Depuis le 5e siècle, il est interdit d'enterrer les morts dans les villes, à l'exception des nourrissons. Dès lors, les routes, à l'extérieur des cités, deviennent des axes de fixation pour les nécropoles. Ce fut le cas à Rome, et la Via Appia en est un illustre exemple. Ce fut le cas aussi ici à Nîmes, où des nécropoles ont été découvertes le long des axes de communication, comme la Via Domitia, qui partait de la Porte Auguste en direction de Beaucaire. De grandes familles locales faisaient construire de véritables mausolées, comme celui de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence. Ces tombeaux, qu'ils soient issus de familles puissantes ou de citoyens modestes, rendaient bavards les morts, puisque les passants étaient interpellés par le défunt, comme par exemple avec cette épitaphe trouvée près d'Aix-en-Provence où il est dit « Bonjour, voyageur, arrête un peu tes pas, je t'en prie, pieux jeune homme, afin de connaître par l'inscription mon sort funeste. Ou bien celle-ci, trouvée près de Lyon. Que le mort revive par ta voix, qui que tu sois, lis ces lignes. » Les morts même pouvaient avoir de la gratitude pour ceux qui s'étaient arrêtés devant leur tombeau. On pouvait lire même également « Puisses-tu vivre heureux et joyeux » ou bien encore « Repartez sain et sauf ». Vous le voyez, la voie romaine, par sa construction, son utilisation, sa structuration, est un outil qui participe à la romanisation, y compris spirituelle. We'll be right back.